Bienvenue dans Hantise, votre enquête audio en 4 épisodes où nous vous emmenons passer une soirée dans la maison de Bella et Jack Manningham. Que vous nous écoutiez assis confortablement, en marchant, en cuisinant ou dans votre bain, prenez le temps d'arriver. Voilà, vous y êtes? Dans l'épisode précédent, nous avons découvert la véritable identité de Jack, un criminel du nom de Sidney Power, déterminé à pousser Bella à la folie. Ruff et Bella ont mis la main sur le trésor tant convoité. 9 rubis, habilement dissimulés dans une broche banale. Alors que l'inspecteur est allé chercher des renforts, Bella s'est retirée dans sa chambre, feignant d'être malade. Tout se passera-t-il comme prévu? Découvrons-le ensemble, dans ce 4e et dernier épisode, Le crime ne paie pas. On entend claquer au loin la porte d'entrée. C'est M. Manningham. Il entre dans le salon et allume une à une les lampes de la pièce en fredonnant un air à la mode. Alors qu'il s'apprête à s'installer confortablement sur le sofa, il s'interrompt soudainement et va tirer la corde pour appeler les domestiques. Nancy apparaît dans le salon.
Oui, monsieur, vous avez sonné?
Oui, Nancy. J'ai sonné. Il semblerait que tout le monde soit couché et on a oublié de me préparer mon verre de lait et mes biscuits.
Oh, toutes mes excuses, monsieur. Tout est dans la cuisine. Je vais vous les chercher sur le champ. C'est Madame Manningham qui vous les apporte habituellement, n'est-ce pas? Le cuisinier est couché et je viens tout juste de rentrer.
Effectivement, Nancy. Alors... Peut-être serais-tu en mesure de remplacer Madame Manningham ce soir et aller les chercher à sa place?
Certainement, monsieur.
Et ensuite, Nancy, va chercher Madame Manningham et dis-lui que je veux la voir dans le salon.
Oui, monsieur.
Nancy sort, puis revient après un temps, un sourire narquois aux lèvres et un plateau dans les mains.
Et puis, Nancy?
Elle dit qu'elle a un mal de tête, monsieur, et qu'elle essaie de dormir.
Nancy dépose une carafe de lait, un verre et une assiette de biscuits sur la table.
Ah ouais, elle a encore ce mal de tête.
Oui, monsieur. Je peux faire autre chose pour vous, monsieur?
C'est une habitude de travailler dans ta tenue de ville, Nancy?
Oh, non, monsieur. Comme je vous l'ai dit, je viens de rentrer. J'ai entendu sonner par hasard.
Exactement.
Je ne comprends pas, monsieur.
Serais-tu assez aimable pour t'approcher de moi, Nancy, afin que je puisse mieux te voir? As-tu une idée de l'heure qu'il est, Nancy?
Oui, monsieur. Un peu passé 23 heures, monsieur.
Sais-tu que tu es arrivé une demi-minute, si ce n'est moins, avant moi?
Oui, monsieur. Il me semble vous avoir aperçu, monsieur.
Ah, tu crois m'avoir aperçu? Eh bien, moi, je t'ai aperçu très clairement.
Ah oui, monsieur?
As-tu déjà songé à toute la latitude qu'on te laisse dans cette maison?
Mais je ne sais pas, monsieur.
Latitude, Nancy, signifie liberté. Une liberté qui ne dépasse pas 2 soirs de congé par semaine.
Oui, monsieur.
Ça va. C'est acceptable. Ce qui est moins, par contre... C'est le fait que tu rentres à la même heure que le maître de maison. Faut tout de même maintenir les apparences, n'est-ce pas?
Oui, monsieur. Il le faut.
Nancy?
Oui, monsieur?
Où es-tu allée ce soir?
J'étais avec des amis, monsieur.
Tu sais, Nancy, quand tu dis « amis », j'ai la drôle d'impression que tu parles de tes amis gentlemen. Les amis gentlemen ont la fâcheuse habitude de prendre certaines libertés avec les jeunes femmes comme toi. Es-tu réceptive à de telles libertés?
Oh non, monsieur. Ce n'est pas mon genre. Je sais rester sur mes gardes.
Es-tu toujours sur tes gardes?
Non, monsieur. Je ne dirais pas toujours.
T'as coiffé? Très jolie, Nancy, mais pas aussi jolie que les cheveux qui se cachent dessous. Permets-moi de voir tes cheveux.
Très bien, monsieur. Elle s'enlève facilement.
Nancy enlève sa coiffe en la faisant lentement glisser le long de ses cheveux.
Voilà. Désirez-vous autre chose, monsieur?
Oui, peut-être. Viendrais-tu plus près, Nancy?
Oui, monsieur. Désirez-vous autre chose, monsieur? Que désirez-vous, hein? Que désirez-vous?
Oh mon Dieu! Les voilà qui s'embrassent.
Et elle, est-ce qu'elle vous embrasse comme ça? Est-ce qu'elle t'embrasse comme ça?
Mais, de qui parles-tu, Nancy?
Tu le sais très bien.
Tu sais, Nancy, tu es une femme remarquable à bien des égards. Serais-tu jalouse de ta maîtresse?
D'elle? De cette misérable folle? Tu veux m'embrasser encore? Avoue, embrasse-moi!
Encore?
N'est-ce pas plus agréable qu'un mal de tête? Un vilain mal de tête et ce visage blême à longueur de journée?
Oui, Nancy. Effectivement. Je crois qu'on ferait mieux de remettre notre rencontre à un autre soir, dans un environnement plus propice.
Certainement. Dis-moi où et quand. Tu m'appartiens maintenant, n'est-ce pas? Parce que tu me désires. Pas vrai que tu me désires?
Et toi? Me désires-tu, Nancy? Et les autres? Il y a beaucoup d'autres.
Oui, il y a beaucoup d'autres.
C'est bien ce que je pensais.
Où pourrait-on se rencontrer?
Pour être franc, Nancy, tu m'as un peu pris par surprise. Je te le dirai demain.
Elle est toujours dans nos pattes. Comment vas-tu t'y prendre?
Oh, je trouverai bien moyen, Nancy. Et de toute façon, je ne crois pas que Madame Manningham sera encore là demain.
Non? En fait, ça ne change rien. Je t'embrasserai devant elle s'il faut, directement sous son nez.
Bon, ça suffit, Nancy. Tu ferais mieux d'aller te coucher. Je dois m'occuper de certaines affaires.
Me coucher? Oh, mais je ne veux pas aller me coucher.
Allez, sois gentille et va te coucher. J'ai du travail.
Du travail? Quel genre de travail?
Je dois écrire des lettres, ensuite... Bon, allez, Nancy, sois gentille.
Bon, d'accord, monsieur. Vous pouvez jouer au maître une nuit de plus. Bonne nuit, sire.
Ça alors.
Jack s'aperçoit que la serrure du tiroir a été forcée. Nancy s'approche et constate à son tour l'état du bureau.
Oh!
Nancy, peux-tu relayer un message à Madame Manningham de ma part?
Que veux-tu que je lui dise?
Dis-lui qu'elle doit descendre immédiatement, quel que soit le mal de tête ou la maladie qu'elle prétend avoir.
Dans ses mots.
Dans ses mots, Nancy.
Nancy sort. Jack, nerveux, fait les 100 pas dans la pièce, semblant évaluer la situation en attendant son retour.
Elle ne descendra pas.
Comment ça, elle ne descendra pas?
Elle a dit qu'elle ne descendrait pas, qu'elle est trop faible. Selon moi, elle joue la comédie.
Vraiment? On dirait que je vais devoir user de persuasion. Très bien, Nancy. Je vais m'en occuper moi-même.
Elle ne te laissera pas rentrer. Je l'entends dans sa voix, elle est sérieuse. Elle a verrouillé la porte et elle ne te laissera pas rentrer. Est-ce que tu vas forcer la porte?
Non. Tu as peut-être raison, Nancy.
Avec un sourire machiavélique, Jack griffonne quelques mots sur un bout de papier qu'il tend à Nancy.
Essayons une stratégie plus délicate pour atteindre notre but. Apporte-lui cette note, glisse-la sous la porte de cette vilaine imbécile.
Avec plaisir. Qu'est-ce que tu lui as écrit?
Oublie ce que j'ai écrit et écoute ce que j'ai à te dire, Nancy.
Oui, oui, quoi?
Va au sous-sol et ramène le petit chien, veux-tu?
Le chien?
Le chien, oui.
Mais à quoi tu joues? Pourquoi le chien?
Ça ne te concerne pas. Fais ce que je dis et va le chercher.
D'accord.
Attends. Peut-être que nous n'avons pas vraiment besoin du chien. Nous lui ferons simplement croire que nous avons le chien. C'est encore plus subtil. Voilà. Va glisser la note sous sa porte, Nancy.
Qu'as-tu écrit?
Rien d'intéressant. Juste assez de fumée pour faire sortir le rat de sa cachette. Allez, va.
Un vrai dur à cuire, dis-moi. Allez, laisse-moi lire la note.
Non. Allez, Nancy.
Nancy, levant les yeux au ciel, déclare forfait et monte à la chambre de Bella pour lui remettre la mystérieuse note.
Elle arrive.
Ah, c'est ce que je me disais. Très bien, Nancy. Maintenant, fais-moi plaisir et laisse-nous.
Quoi? À quoi tu joues?
Nancy, va te coucher.
Oh, d'accord, j'y vais. Bonne nuit, mon cher. Je sens qu'elle va passer un mauvais quart d'heure.
Bonne nuit, Nancy.
Mouah!
À fleur de peau et plus pâle que jamais, Bella apparaît. Nancy la frôle presque et la regarde de haut en quittant la pièce et, sans surprise, laisse la porte entrouverte. Une tension palpable s'installe entre Bella et Jack. Il s'avance lentement vers elle, la dépasse, pour finalement refermer la porte. Bella est prise au piège.
Venez vous asseoir ici, Bella, s'il vous plaît.
Où est le chien? Qu'avez-vous fait du chien?
Le chien? Quel chien?
Vous m'avez écrit à voir le chien. L'avez-vous blessé? Rendez-le-moi. L'avez-vous encore blessé?
Encore? Voilà qui est bien hypocrite de votre part, Bella. M'accuser d'une chose pareille, après ce que vous avez vous-même fait subir à la pauvre bête il y a quelques semaines. Venez vous asseoir.
Je n'ai rien à vous dire. Je ne me sens pas bien. Je croyais que vous aviez le chien et que vous alliez le blesser. C'est la raison pour laquelle je suis descendue.
Le chien, ma chère, n'était qu'une excuse pour vous encourager à venir me voir sans rechigner. Faites ce que je vous dis et venez vous asseoir.
Non. Je veux aller me coucher.
Venez vous asseoir!
Que me voulez-vous?
Asseyez-vous et installez-vous confortablement. Nous ne sommes pas pressés.
Vous ne pouvez pas m'obliger à rester ici. Je veux remonter.
Asseyez-vous et installez-vous confortablement. Nous ne sommes pas pressés, je vous dis.
Dites ce que vous avez à dire.
Avez-vous peur de moi?
Non, je n'ai pas peur de vous.
Surpris par la résistance inhabituelle de Bella, Jack marque une pause comme pour préparer son prochain coup. Alors qu'il l'observe, un sourire satisfait se dessine sur son visage.
Savez-vous à quoi vous me faites penser, Bella? Avez-vous déjà observé un somnambule?
Non.
Vous n'avez jamais croisé le regard étrange, vitreux, vide d'un esprit errant, d'un corps sans âme pour le guider? Je me suis souvent fait cette image de vous, mais jamais autant que ce soir.
Mon esprit n'est pas errant.
Non. Quand je suis rentré, on m'a dit que vous étiez au lit.
Oui, je suis allée me coucher.
Alors, puis-je savoir pourquoi vous êtes encore habillée? M'entendez-vous?
Oui, je vous écoute.
Pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes encore habillée alors que vous étiez soi-disant au lit?
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas? Vous ne savez pas?
Je ne sais pas, j'ai oublié de me changer.
Vous avez oublié de vous changer. Un oubli plutôt curieux, n'est-ce pas, Bella? Vous me donnez l'impression de quelqu'un qui a passé une soirée plutôt agitée pendant mon absence. Comme si vous étiez en train de manigancer quelque chose dans mon dos. Est-ce le cas?
Non. Je ne vois pas de quoi vous parlez.
Avez-vous retrouvé la facture comme je vous l'ai demandé?
Non.
Vous rappelez-vous des conséquences promises?
Laissant planer un silence, Jack se verse tranquillement un verre de lait. Mais Bella refuse de répondre.
Suis-je mariée à une sotte en plus de tout le reste, Bella? L'étendue de votre déficience physique et mentale est réellement impressionnante. Je vous recommande fortement de me répondre.
Que voulez-vous que je vous dise?
Je vous ai demandé si vous vous rappeliez de quelque chose. Allez, Bella, qu'ai-je demandé?
Je ne comprends pas où vous voulez en venir. Vous tournez en rond. J'ai la tête qui tourne, je suis tout étourdie.
Ce n'est pas ce que je veux savoir, Bella.
Je me demande si votre tête pourrait arrêter ses mouvements circulaires pour une fraction de seconde, afin de se concentrer sur notre conversation un instant. »
Avec un calme déconcertant, Jack tend la main vers son verre de lait et en boit une gorgée.
« Maintenant, voulez-vous bien me dire ce que je vous ai demandé de vous rappeler ?»«
Vous m'avez demandé si je me rappelais des conséquences si je ne retrouvais pas la facture. »
« Admirable, ma chère Bella. Vous êtes une grande savante, après tout. Une Socrate. L'histoire se souviendra peut-être de vous comme le véritable génie de son époque, qui sait. Du moins, si votre condition actuelle ne vous submerge pas et ne finit pas par vous arracher à ce monde. C'est un vrai risque, vous savez.
Alors, quelles sont les conséquences promises pour ne pas avoir retrouvé la facture?
M'envoyer à l'asile.
Et diriez-vous que je suis un homme de parole? Voyez-vous, Bella, ma vie a été parsemée d'expériences aussi riches que variées, et j'ai appris à établir des principes. Je crois sincèrement que je suis assez doué quand vient le temps de comprendre l'espèce humaine. En fait, j'ai appris à le faire très tôt à l'école. Là-bas, il y avait deux façons d'arriver à mes fins. La première, c'était d'aborder les situations sur le plan intellectuel. La deuxième, sur le plan physique. Si l'une des deux façons ne portait pas ses fruits, j'avais recours à l'autre. C'est depuis devenu ma philosophie. Jusqu'à présent, avec vous, j'ai toujours fait appel à ma patience et à ma tolérance, comme vous pouvez en attester. J'ai travaillé sur le plan intellectuel. Le temps est venu, je crois, de passer à l'autre plan. Vous conviendrez que je suis un homme de pouvoir. Pourquoi me regarder ainsi, Bella? Je ne fais que dire que je suis un homme de pouvoir, déterminé, est capable d'adapter son approche aux défis que la vie lui présente. Je laisse à votre imagination le soin de déduire ce que cela implique. Pardon, je m'écarte du sujet. Vous avez retrouvé la facture, n'est-ce pas?
Non.
L'avez-vous cherchée?
Oui.
Où l'avez-vous cherchée?
Ici et là, dans le salon.
Ici et là. Où, dans le salon?
Dans mon bureau, peut-être?
Votre bureau est verrouillé.
Pensez-vous pouvoir continuer à me mentir? Écoutez-moi bien. Votre esprit, confus et malade, vous a poussé à me jouer bien des tours ce soir, n'est-ce pas?
Mon esprit est épuisé. J'aimerais aller me coucher.
Votre esprit est effectivement épuisé. Si épuisé qu'il ne fonctionne plus du tout. Vous ne croyez pas? Vous ne réfléchissez plus, vous rêvez! Vous rêvez à longueur de journée. Vous rêvez tout. Des rêves incessants et malicieux. Vous le savez sans doute. Idiote somnambule. De quoi avez-vous rêvé ce soir? Votre esprit errant vous a-t-il conduit jusqu'à démolir mon bureau? Quel rêve démon et insensé avez-vous fait ce soir, hein?
Rêve? Êtes-vous en train de me dire que j'ai rêvé?
Bien sûr que vous avez rêvé.
Un rêve. Ce soir. Ah, mon Dieu! Serait-ce possible? Vous voulez dire que j'ai rêvé?
C'est précisément ce que je viens...
Non! Ce n'est pas un rêve! Ne me dites pas que j'ai rêvé! Pour l'amour de Dieu! Ne me dites pas ça!
Asseyez-vous et taisez-vous!
De quoi avez-vous rêvé, cette fois, Bella? Je suis curieux de le savoir.
Un homme! Il y avait un homme!
Vous avez rêvé d'un homme? Quel homme? Qui était-ce?
J'ai rêvé qu'un homme venait me voir.
Mais je sais bien que c'est un rêve, pauvre imbécile! Je veux en savoir plus sur cet homme dont vous avez rêvé. M'entendez-vous?
J'ai rêvé.
Non, Bella, vous n'avez pas rêvé. Oh! Regardez qui vient d'entrer dans le salon.
J'ai fait une apparition dans votre rêve, Madame Manningham? Peut-être ma présence vous aidera-t-elle à vous souvenir de ce rêve curieux?
Qui diable êtes-vous? Et comment avez-vous fait pour rentrer?
Eh bien, il semblerait que mon identité soit incertaine en ce moment. Il semblerait que je ne sois que le fruit de l'imagination de Madame Manningham. Quant à mon entrée, je suis passé par la porte.
Et seriez-vous assez aimable pour me dire ce que vous faites ici ?
J'attends des amis, Monsieur Manningham. J'attends tout simplement des amis. Vous ne croyez pas que vous feriez mieux d'aller vous reposer, Madame Manningham ? Vous me semblez très fatiguée.
Vous ne croyez pas que vous feriez mieux de m'expliquer votre présence ici ?
Eh bien, étant donné que je n'existe que dans l'imagination de votre femme, il est assez difficile pour moi de vous expliquer ma présence. Dites, Monsieur Manningham, est-ce que vous me voyez ? Sans doute votre femme peut-elle me voir ? Mais c'est étrange que vous me voyez aussi. Peut-être que si elle retourne à sa chambre, je vais disparaître et vous n'aurez plus à vous occuper de moi.
Bella, allez dans votre chambre. Je vais parler avec cet homme et je m'occuperai de votre cas en temps et lieu. Je n'ai pas terminé avec vous, madame.
Bella se résigne et monte à sa chambre alors que Ruff lui lance discrètement un regard rassurant.
Bon, alors, auriez-vous l'obligeance de me dire votre nom et quel vent vous amène ?
Mon nom importe peu. Vous l'avez dit vous-même, je ne suis qu'une apparition. Peut-être le spectre de quelque chose que vous avez fui toute votre vie. Accepteriez-vous de prendre un cigare avec un spectre ? Nous devons patienter encore un peu.
Allez-vous me dire ce que vous faites ici ou vais-je devoir appeler la police ?
Une excellente idée ! Je n'aurais pas pu dire mieux. Oui, appelez la police, Manningham.
Je peux vous jeter dehors moi-même, monsieur.
Oh, certes. Mais pourquoi ne pas plutôt appeler la police ?
Vous avez l'air d'être un homme avec une mission. Alors, dites-moi ce que vous avez à dire.
Ah, excusez-moi, Manningham, mais avez-vous la même impression que moi ?
La lumière baisse en intensité, mais Jack, pris au dépourvu, feint de ne rien remarquer.
Quelle impression ?
Que les lampes baissent en intensité dans cette pièce.
Je n'ai rien remarqué.
Mais oui ! Regardez ! Étrange, non ? Peut-être qu'on a allumé une lampe ailleurs dans la maison. Oh ! Peut-être y a-t-il d'autres esprits ? Des esprits comme moi ? Des esprits qui protègent cette maison ? L'esprit de la justice, même, qui vous a finalement rattrapé, Monsieur Manningham ?
Vous êtes fou, vous aussi, c'est ça ?
Ça doit être l'ambiance de cette maison. Je les vois partout. C'est très étrange. Il y a un fantôme en particulier, Monsieur Manningham. C'est le fantôme d'une vieille dame.
De quoi parlez-vous ?
Je la vois très clairement, monsieur. Une vieille dame qui se prépare à monter dans sa chambre à la fin d'une longue journée. Oh ! Elle est là, assise, juste ici. Et maintenant, je vois le fantôme d'un jeune homme, Monsieur Manningham. Un grand jeune homme, galant, soigné. Mais ce jeune homme a les yeux d'un meurtrier. On dirait presque vous, Monsieur Manningham. La vieille dame l'aperçoit. Vous ne voyez vraiment rien de cette scène ? Elle crie ! Elle crie au secours ! Elle crie jusqu'à ce qu'on lui tranche la gorge au couteau. Là ! Ça y est. Elle a disparu. Je ne la vois plus.
À quoi vous jouez ? Hein ? À quoi vous jouez ?
Mais je vois encore le fantôme de l'homme. Je le vois en train de fouiller. Il cherche furieusement une chose qu'il ne trouvera jamais. Les années passent et où est-il ? Eh bien, serait-il revenu dans cette maison, peut-être ? Cette maison même qu'il a jadis fouillée et retournée ? Et ne se tiendrait-il pas debout, aujourd'hui, devant le fantôme de la femme qu'il a assassinée ? Un homme méticuleux ? Un homme patient ? La justice a été patiente, elle aussi. Et voici qu'elle se manifeste à travers moi, pour réclamer ce qui lui est dû. Mon ami, en une heure à peine, la justice a trouvé ce que vous avez cherché et n'avez jamais trouvé. Voyez ce qu'elle a trouvé. Une lettre qui n'a jamais été livrée à votre femme.
Ruff brandit la lettre adressée à Bella et l'agite sous le nez de Jack.
Et une broche que vous avez offerte à votre femme, mais qu'elle n'a jamais appréciée. C'était effronté de sa part. Il faut dire aussi qu'elle en ignorait la valeur. Comment pouvait-elle se douter que la broche cachait les rubis Barlow? Juste là. Vous voyez? Vous avez 12 000 livres sous les yeux. Voilà, monsieur. Vous avez assassiné une femme pour ses pierres et tenté de persuader une autre qu'elle était folle. Les pierres étaient dans votre bureau depuis le début. Et la seule chose qu'elles vous auront rapportée, c'est une corde autour du cou, monsieur Sidney Power.
Vous détenez une information d'une grande valeur. Imaginez-vous réellement, monsieur, que je vais vous laisser quitter ce salon avec cette information ?
Imaginez-vous réellement, monsieur, que vous allez quitter ce salon autrement qu'avec une escorte de policiers ?
De quoi parlez-vous ?
Seulement du fait que mes hommes sont déjà dans la maison. Vous n'avez pas remarqué sans doute qu'ils ont signalé leur présence en faisant varier l'intensité de la lumière lorsqu'ils sont entrés à l'étage. Par votre entrée privée, monsieur Manningham.
Vous voulez dire... Impossible !
Les deux policiers qui attendaient dans l'entrée font irruption dans la pièce.
Oh, messieurs, entrez. Entrez. Faites comme chez vous.
Le malheureux tente de s'enfuir, mais les policiers parviennent à le saisir.
Lâchez-moi ! Lâchez-moi !
Jack se débat, en vain, et finit par être maîtrisé.
Sidney Charles Power, j'ai en ma possession un mandat d'arrêt en votre nom pour le meurtre d'Alice Barlow. Je dois vous aviser que tout ce que vous direz sera pris en note et pourra être retenu contre vous ultérieurement. Allez-vous nous accompagner calmement au poste de police ? Nous vous en serions reconnaissants et vous nous rendriez un fier service si vous coopériez.
Mais Jack refuse d'obtempérer et se débat comme un animal pris au piège.
Très bien, emportez-le.
Alors que les policiers s'apprêtent à exécuter l'ordre de l'inspecteur, Bella apparaît dans le cadre de la porte. Son visage est... Mon Dieu, je ne sais pas.
Détective ?
Oui ?
J'aimerais parler à mon mari.
Mais ça ne servirait à rien, sauf...
J'aimerais parler à mon mari. J'aimerais être seule avec lui.
Seule ?
Oui, seule. Me rendrez-vous ce dernier service ? Je vous en prie.
Mais je ne comprends pas. D'accord. Vous pouvez lui parler en privé. Attachez-le à la chaise.
Les policiers ligotent Jack à la chaise, puis sortent.
C'est inhabituel. Mais nous attendons à l'extérieur. Faites vite, Madame Manningham.
Je ne veux pas que vous écoutiez à travers la porte.
Oui, c'est promis.
Ruff quitte la pièce et laisse Bella seule avec son bourreau. Un long moment passe pendant lequel elle le fixe, sans émotion. Elle finit par s'avancer doucement vers la porte et la verrouille.
Jack! Jack! Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait?
C'est correct, Bella. Oh, ma chère, comme vous êtes intelligente! Allez trouver quelque chose pour couper cette corde. Je peux me faufiler par la fenêtre du garde-robe, puis m'enfuir. Pouvez-vous trouver quelque chose de coupant?
Oui, je peux sûrement trouver quelque chose. Avez-vous une idée?
Il y a une lame de rasoir dans mon garde-robe. Vite! Pouvez-vous aller la chercher?
Une lame? Oui, j'y vais.
Faites vite! Oui, dans mon garde-robe. C'est ça. Dépêchez-vous!
Bella ouvre le garde-robe. On dirait qu'elle se parle à elle-même. Après un court instant, elle ressort du garde-robe un boîtier à la main et en sort une lame. Oh! Une feuille tombe au sol. Un grand sourire apparaît sur son visage.
C'est la facture d'épicerie! Regardez, mon chéri! Je ne l'ai pas perdu!
Coupez la corde, Bella.
Ses yeux se posent sur Jack, puis sur la facture, puis sur Jack.
Jack, comment la facture s'est-elle retrouvée là? Vous aviez dit que je...
Un regard féroce et insensé traverse son visage.
Je me suis sans doute trompé. Allez, ma chère, vite, utilisez la lame de rasoir. Vite!
Une lame? Quelle lame?
Bella ne semble pas réaliser à quel point la lame est proche de la gorge de Jack.
Êtes-vous en train de suggérer que c'est une lame que je tiens dans ma main? Avez-vous perdu la raison, mon cher époux?
Bella, que faites-vous?
Ou bien, serait-ce moi qui perds la raison? Oui, c'est ça, c'est moi. Mais bien sûr que c'était une lame. Je suis vraiment devenue folle. Je perds tout. Je ne sais jamais où je cache les choses.
Bella!
Je dois la trouver, n'est-ce pas? Où pourrait-elle se cacher? Derrière le cadre?
Elle se précipite vers le cadre et l'arrache du mur.
Non! Elle n'est pas là! Je dois remettre le cadre. Maintenant, où dois-je regarder? Où? Là? Le bureau? Je l'ai peut-être mise dans le bureau. Non, pas là. Mais il y a une lettre. Et une montre. Et une facture. Vous voyez, je les ai finalement retrouvées. Mais ils ne vous aideront pas vraiment. Et moi, j'essaie de vous aider, non? Mais comment une femme complètement insensée, imbécile, pourrait-elle aider son mari à s'enfuir? Quel dommage. Si je n'étais pas si folle, peu importe ce que vous ayez fait, j'aurais eu pitié de vous et je vous aurais protégée. Mais je suis folle. Je suis folle et mon cœur se réjouit, sans aucune pitié, sans aucun remords, à l'idée de vous voir finir vos jours derrière les barreaux.
Bella!
Bella se précipite sur la porte pour la déverrouiller.
Détective! Détective! Emportez cet homme. Emportez-le.
Ruff et ses hommes se précipitent dans la pièce. Les policiers emportent Jack et Bella s'effondre en larmes dans les bras de l'inspecteur.
Allez, ma chère. Vous venez de traverser une épreuve très difficile. Je suis sortie de nulle part et par ma faute, vous avez passé une des plus terribles soirées de votre vie. N'est-ce pas? Une soirée terrible et inimaginable.
Terrible? Oh non, détective. Une des plus merveilleuses. Sans doute une des plus merveilleuses.
C'est ainsi que se termine Antise, votre enquête audio en 4 épisodes, une production barre oblique. Cette pièce de Patrick Hamilton a été traduite et adaptée de l'anglais par Hélène Rossetti et Yann Letiec, avec la trépidante participation de Sébastien Bouvet, Tiffany Clovin et des comédiens. Une mise en son de Yann Letiec, musique et ambiance de Ralph McDonald, montage par Hélène Rossetti et Yann Letiec, avec les voix de Hélène Rossetti, Emilie Escalante, Mathieu Marcignac, Maxime Bretin, Sébastien Larocque et Vanessa Serrando-Rollère. Enfin, un merci tout particulier à Cécile, Louis, Michel, Ronan, ainsi qu'à tous celles et ceux dont les dons ont rendu possible l'achat des microphones utilisés pour enregistrer Antise.